Bonsoir tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKUT à votre émission d'art et de culture, l'émission Café. Allô Lynn, allô Esther.
Salut. Bonjour.
Et tellement contente, c'est Alex qui vous parle en direct du studio de CKUT, première fois en studio depuis 2023. Contente d'être parmi vous les filles.
Première fois à trois au studio depuis... et première fois pour Alex.
Depuis longtemps.
Ouais. Alors, ce soir à l'émission, gros programme, hein? Esther, tu vas nous parler de quoi ce soir?
Je vais vous inviter à un vernissage ce soir qui a lieu actuellement jusqu'à 9h à la Maison de la culture Claude Léveillé. C'est vraiment une exposition spéciale qui offre un regard critique, socio-politique, un regard éclairé sur deux peintres haïtiens de Port-au-Prince. Et c'est signé un commissariat de James Oscar. Il me disait qu'il faut voir l'exposition comme une expo historique. Donc, je vais en savoir plus ce soir. Et puis, et qui sait, il y aura peut-être des surprises liées à cette expo. Et je vais vous parler aussi du dernier film de Brandon Cronenberg,
yes.
Infinity Pool, que j'ai vu deux fois. Donc, deux fois?
Wow! Oh. J'ai hâte qu'on en parle.
Ouais.
Et toi, Lynn?
Très cool. Moi, je vais vous parler de deux pièces que je suis allée voir cette semaine. Une qui s'appelle « Sur l'apparition des eaux dans le corps » et l'autre qui s'appelle « Projet Les Bonnes ». Donc, voilà, deux belles pièces de théâtre dont je vais vous parler un petit peu ce soir.
Nice! Et puis moi, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Laure Morali, donc poète, écrivaine, femme aux mille chapeaux qui m'inspire absolument. Donc, je vais vous présenter l'entrevue que j'ai faite avec elle cette semaine.
Oh, chouette!
Très nice! Hey, on commence avec toi, Esther. Parle-nous de ce film, de cette exposition.
On va débuter pour donner un petit topo de la Maison de la culture Claude Léveillé. C'est cette Maison de la culture située sur Jean Talon, non loin du métro Jean Talon. Et je suis très curieuse moi-même d'aller tout à l'heure au vernissage. James Oscar, qui est un commissaire, un auteur, qui s'intéresse beaucoup à la pédagogie, à la philosophie, à la poésie. Il nous présente le langage secret de l'univers. Et je me demande pourquoi le secret de l'univers. Donc, je pense qu'en allant voir l'expo, je serai en mesure de davantage répondre à cette question. Mais il nous offre vraiment un regard autre sur deux peintres haïtiens, Clovis Alexandre Desvarieux et Carl-Philippe Simonis, deux peintres de Port-au-Prince. Je pense que l'un d'eux ou les deux habitent Montréal. Et c'est ça, c'est pas des noms que je connais, et ça va me faire vraiment plaisir d'aller découvrir ça. Donc, le poster qui annonce l'exposition, bien, est fort coloré. C'est la peinture abstraite, très dynamique, beaucoup de couleurs très chaudes. Donc, pour moi, c'est une tradition qui a un peu passé inaperçue à Montréal, les peintres haïtiens. Malheureusement, c'est encore méconnu. Je présume qu'il y a des lieux underground qui les présentent, mais le fait que ça soit présenté dans une maison de la culture, bien, ça permet justement à la ville de signer quelque chose d'assez chouette. Et je vais y aller tout à l'heure voir l'exposition, et puis je pourrai vous faire un topo la semaine prochaine, à savoir c'est quoi le langage secret de l'univers. C'est ça la prémisse de départ. Et je sais qu'il y a des intonations poétiques, politiques, puisque James Oscar, ce commissaire-là, a un regard très éclairé sur, justement, Haïti, mais aussi sur l'Afrique, puisque lui vient de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a toujours des ponts à faire, évidemment, entre ces diasporas. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Et voilà. Donc, j'ai vu deux fois Infinity Pool, puisque, en tant que personne privilégiée, j'ai pu voir un lien en privé avec le directeur photo, qui est un ami à moi, Karim Hussein, qui vivait à Montréal avant. Il a grandi à Ottawa, il vit à Toronto. Et puis hier, c'était l'avant-première au Cinéma du Parc. Et aujourd'hui, ça sort dans toutes les salles canadiennes. J'ai pas encore regardé la liste des cinémas qui présentent le film, mais je présume qu'il y en a quand même plus que deux
à Montréal. Oui, j'ai regardé, il y en a dans tous les cinéplex. Là, ça va pas être qu'en salle, qu'en petite salle alternative.
Non, c'est ça. Je sais qu'il y a au moins Scotiabank ou l'autre complexe. Peut-être. Je pense qu'il y a une version avec les sous-titres en français qui existe aussi. Mmh. J'aimerais bien... Puisque c'est vraiment un film irrévérencieux, un film qui ose et qui présente beaucoup de sujets très tabous, qui a une sexualité très exaltée. Et c'est très pervers comme film. Donc, c'est vraiment... Sans brûler la mèche, disons que c'est vraiment... une histoire, un narratif qui est twisté dans le sens de les fantasmes ou les fantaisies ou les choses qu'on ne peut pas faire dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, est permise dans ce voyage que dans lequel le protagoniste a participé. C'est un voyage assez particulier. Et c'est fou, ça nous fait vraiment penser, OK, c'est quoi la morale d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien, le bon, le mal, est remis en question. Et il n'y a pas comme... On blâme pas... On n'est pas dans une position de spectateur où on blâme les protagonistes, mais c'est sûr qu'il y a des comportements, on dit « Oh my God! » C'est over the top. Hein? Et puis... donc, il y a une... C'est bien, puisque côté censure, il y a... Au Canada, ce ne sera pas censuré. Donc, dans les salles, ce ne sera pas censuré. Tandis qu'aux États-Unis... Mmh. Oh non! Non.
C'est censuré.
Attendez, je reformule. Au Québec, ce n'est pas censuré. Mais dans le reste du Canada, c'est censuré. Et aux États-Unis, oubliez ça, c'est censuré. Wow. Donc, il y a peut-être, je ne sais pas moi, c'est peut-être autour de 5-8 minutes qui a été coupé, censuré. Mmh. Puisque, bon, il y a de la violence, il y a beaucoup de sexualité, il y a beaucoup de scènes de sang, quelques meurtres. Donc, il y a des passages, OK, dans cette scène. Mais, oui, comme on sait dans notre vie de tous les jours, à l'extérieur du Québec, là, si quelqu'un veut vraiment voir la version intégrale, il y a toujours façon. Hein? Mais ça parle encore de comment nous, les Québécois, on en a... notre version de voir la vie, de partager l'art, quoi. Mmh. C'est vraiment intéressant de voir. OK, ouais. On n'a pas la version censurée en cinéma. Wow.
C'est vrai que c'est très cool. On peut en être fiers, je pense.
ouais. Donc, ce film de Brandon Cronenberg, ben, c'est son troisième. Et puis, il signe quelque chose de très, très osé. Le film a eu un bon succès à sa première à Sundance. Ouais. Et les critiques sont super... positive, c'est incroyable. Donc, on lui souhaite un bon développement. Et la sortie a été très, très, très rapide. Donc, on vit dans une industrie où tout va très rapidement. Mmh. Donc, c'est des maisons de production qui, telles que Néon, qui soutiennent beaucoup les films de genre. Mmh. Et si on pense, il y a 5 ans, 10 ans, un film comme ça aurait eu plus soit de censure ou n'aurait pas eu de bonne distribution. Okay. Et donc, on voit de plus en plus de cinéma de genre sur le grand écran.
Comment tu l'expliques, Esther?
Oh là là!
Grosse question, ouais, quand là, live en plus.
Quand je parle avec mes amis dans l'industrie, il y a eu une sorte de démocratisation du genre, je pense. Le genre a éclaté, devenu plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Et veut pas les plateformes payantes. Ouais. On a comme mis de la compétition et de la pression sur les grandes salles aussi. Ils veulent pas perdre du marché, ils veulent pas perdre des visiteurs sur leur plateforme. Et les festivals aussi. Ouais. Et toute l'industrie, les distributeurs, tout, je pense qu'il y a eu comme un nouvel esprit, une nouvelle jeunesse, une nouvelle, comme le théâtre aussi, une nouvelle jeunesse qui apporte plus de, ouais, de d'ouverture d'esprit. Et c'est ça, et Carrie Mussin nous disait aussi que ouais, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de productions. Le cinéma a un peu... C'était un peu plus lent, mais ça n'a pas arrêté, ça n'a jamais arrêté les productions cinématographiques. Il y avait beaucoup de films de genre sur les plateformes. Mm. Donc, il y a eu comme une bonne production de films de genre pendant la pandémie. Ça.
Oh.
Et dans les cinéparks, il y a eu, bon, c'était un lieu par excellence, faire rétro, mais aussi, bon, côté COVID, machin. Donc, ouais, je pense que il y aura de plus en plus de films de genre violent. Et puis, il y a beaucoup plus de choses osées depuis un an, deux ans qu'avant. Et comme avant Noël, il y avait un film de Noël qui s'appelle Violent Night.
Ouais.
Je n'ai pas la traduction. Je pense que je ne sais pas comment ils l'avaient traduit en français. Anyway, je l'ai vu l'avant-première aussi. La salle était pleine. Et ce film assez violent quand même. Là, tu dis ça, ouais, c'est un film de Noël, quoi. C'est... Il y a beaucoup de suspense, puis... Ouais, c'est assez gros, quoi. Il y a même des films canadiens qui ont été un peu tombés dans l'oubli et qui sont parfois revisités par des festivals. Mm. Et puis, ces films-là n'ont pas eu de succès au cinéma parce que peut-être qu'ils étaient trop violents ou ils ont sorti dans les petites salles. Et puis là, on les redécouvre. Là, OK, c'est canadien, ça. Puis... En tout cas, les gens dans l'industrie qui connaissent les films très niches, ils connaissent, mais il y a des trucs, des fois, qu'on redécouvre que... OK, c'était pas mal violent, mais aujourd'hui, l'audience est plus ouverte, quoi.
Merci d'avoir
merci beaucoup
sur ma question.
C'est super intéressant.
Ouais, ouais. Donc, c'est un film tellement bien tourné, Infinity Pool, et bien cadré, les éclairages très chauds. Des fois, c'était... On voit un peu des références à des films rétro, juste par les éclairages, juste par la mise en scène. Non, c'est... Il y a la célèbre actrice Mia Goth qui... Moi, je ne la connaissais pas, mais bon, elle fait de la télé ou des séries, je ne sais pas quoi. Et elle est incroyable. Elle joue une sorte de folle, hystérique, vraiment rigolote. Non, il y a une très belle palette d'acteurs. Et puis, ouais, il faut aller voir ce film-là. C'est très osé, mais très accessible en même temps. C'est comme ça que le réalisateur vend le film. C'est très accessible malgré tout. Et il faut pas avoir peur d'avoir peur. Il faut pas avoir peur d'avoir peur, puisque il y a quelque chose que c'est pas c'est pas comme des films de fantômes où là il y a vraiment du psychologique très dark. Non, c'est vraiment pas ça. Il y a un côté beaucoup d'humour.
Wow.
Et c'était tourné en partie en Croatie et en Hongrie. Donc,
ça ne doit pas être laid.
Ah oui, les paysages, incroyable. Les paysages, wow. Super beaux. Mais le lieu est fictif dans l'histoire. Mais en réalité, ouais, c'était la Croatie, la Hongrie, beaux paysages de la mer. Et ils ont capté un peu la saison des pluies, et puis là-bas. Puis, ouais, non, c'est...
À voir.
Ouais, hein. Ouais. Et vous allez voir, à la fin, il y a comme une image... pas une caricature, mais une métaphore visuelle de la Pietà. Mais j'en dis pas plus.
Non, s'il vous plaît.
Et c'est drôle, ça fait rire. Donc, allez-y, ça sera en salle pendant un mois,
Vendu.
Je présume.
Vendu, Esther. Et tu voulais nous présenter une chanson
aussi?
Ah oui,
c'est ça, c'est Ijo, un artiste incroyable qui parfois fait des projets électroniques, parfois acoustiques. Et ça, c'est son projet acoustique. Mais je pense que la semaine prochaine, je vais présenter son projet électronique. Ijo, et là, on présente la pièce...
Absent Seeds.
OK. Donc, l'artiste a un bandcamp et un site web. Allez voir ça, si vous êtes intéressé.
Yeah. are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame.
Toujours sur les ondes de CKUT, c'est Alex qui vous parle. Il est 18h19 à votre émission d'art et de culture Café. Donc, je vais vous présenter, en fait, cette semaine, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Laure Morali, une personne que j'admire énormément pour son travail d'écriture, mais aussi pour tous les projets auxquels elle a participé avec les Inuits, notamment sur la Côte-Nord. Réalisatrice, autrice, poète, conférencière, cette femme à plusieurs chapeaux ne cesse de m'impressionner par sa douceur et sa poésie. Je l'ai donc interviewée cette semaine alors qu'elle se trouve en résidence d'artiste en France pour parler de son tout dernier recueil de poésie, Personne seulement, qui vient tout juste de paraître chez Mémoire d'Encrier. Donc, j'ai plongé dans ce livre comme on le ferait dans une mer calme et tiède, séparée en différentes parties tout aussi lumineuses les unes que les autres. Un souffle conducteur m'a permis de poursuivre cette lecture de poèmes. Je suis pas une grande fervente de poèmes dans la vie, mais ça, pour vrai, ça se lisait vraiment, vraiment bien, surtout en ce janvier gris. C'est donc dans cet état d'esprit que j'ai rencontré la poète par Zoom jeudi avant midi. Voici donc cette entrevue. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. On se rencontre aujourd'hui pour discuter de ton tout dernier recueil de poésie, Personne seulement, qui est paru cette semaine chez Mémoire d'Encrier, que j'ai dévoré par ailleurs et qui se lit parfaitement dans ces grises journées en apportant une lumière douce et propre à ta poésie. Ma première question concerne Léonore Cohen. Donc, on peut lire déjà en exergue du livre que c'est un livre qui a été écrit en écoutant sa musique. Mais également, on peut lire plusieurs extraits de sa poésie, de ses chansons traduites. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec cet auteur, ce chanteur?
Et je trouve que Montréal, c'est la ville de Leonard Cohen et c'est une ville où on le croise assez souvent finalement. On le croise sur les murs, son visage apparaît, on sent sa présence au parc du Portugal. Il est enterré maintenant au Mont-Royal. Et en vivant à Montréal depuis maintenant plus de 20 ans, la présence de Leonard Cohen m'a rappelé des souvenirs d'enfance puisque j'écoutais ses disques. Ma mère avait ses longs jeux, puis je les écoutais régulièrement, petite. Donc c'est à la fois une personne qui a marqué ma vie d'adulte et mon enfance. C'est aussi quelqu'un que j'admire pour la façon dont il réunit les cultures et les différentes origines religieuses autour de sa vibration personnelle qui vient du cœur. Et les publics de tous horizons l'écoutent. Sa spiritualité, elle est réconciliante, elle est rassembleuse. Et c'est pour ça que j'avais envie d'entrer en dialogue avec une figure qui serait celle de son ange dans Montréal, pour être à la fois dans une spiritualité, mais aussi dans l'ouverture à l'humanité tout entière.
Wow, magnifique. C'est pari réussi. Mais je me demandais justement si tu aimais te donner des balises lorsque tu écris. Est-ce que c'est venu naturellement d'écrire ce recueil-là en l'écoutant ou bien c'est vraiment un projet, tu avais envie?
Ça m'est tombé dessus en fait. Je n'ai pas cherché, ce n'était pas un projet que j'ai construit de mon plein. De mon propre chef, comme ça, comme en une décision, non? C'est arrivé en 2018 où je suis allée à l'exposition Une brèche en toutes choses au Musée d'art contemporain, hommage à Leonard Cohen. J'y ai passé plusieurs heures, j'ai écouté la chanson Alléluia dans un espèce d'univers virtuel où on se trouvait dans une église. J'ai vu des objets qui lui ont appartenu. Et quand je suis sortie dans la rue, il faisait froid, c'était un mois de février. Il neigeait aussi, il y avait les tours. Et un long poème a commencé à me passer à travers la tête et je me suis mise à l'écrire dans la rue alors qu'il faisait très froid. je pouvais pas m'arrêter d'écrire ce poème. Et les semaines, les mois qu'on suivit, les années qu'on suivit, pardon, donc les années qu'on suivit, ça a continué. Parfois le soir, j'avais envie d'écrire, pas du tout en l'écoutant en fait, hein, j'ai pas écouté sa musique pour écrire, mais sa figure, son personnage me passait à travers la tête et j'entrais en dialogue avec cette figure.
Wow. J'avais aussi envie de parler un peu de mélancolie parce que tes poèmes ainsi que ceux de Léonore en sont empreints, mais c'est une douce mélancolie qui te pousse plus du côté de la lumière que de l'obscurité. Je me demandais, est-ce que tu es une personne mélancolique?
Non, je pense pas que je sois un mélancolique, intériorisé sans doute. C'est l'idée de nous il y a un poème qui dit nous habitons brumeux l'échec pour mieux cacher la joie. Il y a des joies qu'il ne faut pas montrer comme ça de façon expansive. Il y a des joies qui, pour qu'elles, comme un feu qu'on entretient à l'intérieur, qu'on nourrit. Eh bien, on le dissimule un peu sous une brume pour préserver sa propre lumière et que cette lumière puisse grandir en toute tranquillité. C'est un peu ça.
Magnifique. Tu es natif de Bretagne.
Oui.
Tu as grandi dans de grands espaces au bord de la mer. Arrivé au Québec, tu as passé beaucoup de temps sur la côte nord, chez les Innus notamment. On pourrait penser que tu es une personne de vaste territoire. Pourtant, tu habites Montréal depuis 20 ans maintenant. Et ton recueil est une ode discrète mais puissante à Montréal. Quelle relation entretiens-tu avec cette ville, notre ville?
Mais quand on habite quelque part, je sais pas, on n'est pas toujours porté à aller écrire sur ce qui nous entoure de façon proche. Et là, je suis arrivée à un moment où je voulais rendre hommage à cette ville que j'aime, dans laquelle je me sens bien depuis plus de 20 ans. J'ai fait mes études en 93, 95, 96 à l'Université du Québec à Montréal en création littéraire. Ensuite, je suis partie sur des routes pour aller à la rencontre des écrivains des Premières Nations en 95-96, l'hiver toujours. Mais je revenais toujours à Montréal et où j'avais des amis et où c'était un endroit où je me sentais bien, que je trouvais qui était aussi un peu à la croisée de différentes cultures. J'avais beaucoup d'amis aussi sud-américains, Innu, québécois. Puis j'aimais cette rencontres multiculturelles, anglophones aussi. Donc, c'est ce que j'ai aimé dans Montréal. Par la suite, je m'y suis installée en 2002. J'ai un compagnon qui vient de Laval, qui est Montréalais depuis longtemps, et on a un fils qui est né à Montréal, ce qui fait que c'est une ville où j'ai fait mes racines quelque part.
On a parlé un peu de spiritualité en début d'entretien. J'avais envie de revenir un peu là-dessus parce que dans la lecture du recueil de personnes seulement, on peut sentir l'influence d'une certaine forme de spiritualité autochtone, comme le rapport aux éléments, par exemple, quand on lit Le vent parle, son souffle nous maintient en équilibre dans l'espace. Ça m'amène dans les grandes contrées des Innus notamment et de plusieurs peuples autochtones. Est-ce que tu pourrais dire que c'est une influence autochtone? Puis quelle est la place en fait de ce monde dans ton écriture?
C'est étrange parce que pour moi, je le vois plutôt comme un poème de Bretagne, enfin de spiritualité peut-être, mais de mes racines bretonnes. Et les éléments ont eu une grande place dans mon enfance. J'ai grandi dans une presqu'île entourée par l'eau, la mer, les marées, la lune, la force de la respiration de l'univers, les rochers. Donc, quand je suis allée chez les Innus, j'ai reconnu quelque chose qui faisait déjà partie de moi. C'est ce rapport aux éléments et à la matière, à la nature et aux animaux peut-être aussi. Donc, ça m'a permis d'aller plus loin dans certaines intuitions que je pouvais avoir seule quand je grandissais dans ma presqu'île. Alors, c'est ça, je dirais que on s'est rencontrés, on s'est compris avec mes amis nous sur la base de sans doute de ces points communs.
Wow, puis c'est là aussi qu'on peut voir les où la spiritualité peut englobe beaucoup de cultures finalement, un peu comme Léonard Cohen, tu disais au début qu'il y avait cette force rassembleuse de plusieurs origines, parce que justement, je voulais parler des références aux anges dans ton recueil, qui, elle, me fait penser plus à Léonard Cohen, puis à son type de de spiritualité à lui, qui a développé de de son rapport au bouddhisme notamment, mais aussi à la religion juive. Est-ce que toi, tu te considères comme une personne spirituelle?
Mais je peux l'assumer aujourd'hui, arrivé à mon âge, 50 ans, je pense que c'est le temps d'assumer d'être une personne spirituelle. Je ne suis pas univoque là-dedans, je rentre en lien avec différentes spiritualités. Donc pour écrire personne seulement, j'ai eu l'impression d'être en lien avec peut-être quelque chose de l'ordre des livres de la Kabbale que je connais très peu, mais il y a eu un jeu sur les lettres et les chiffres. Et les mots, il s'est mis en place tout seul, qui vient là aussi faire un lien avec une partie de ma branche familiale qui est également d'origine hébraïque, mais plus d'Afrique du Nord. Tandis que de l'autre côté, c'est breton, catholique. Et donc, moi, je suis aussi un mélange de spiritualité, de culture, de terre qu'on a laissée, de terre desquelles on est parti, que ce soit les Bretons comme des marins ou que ce soit les Juifs d'Algérie parce que ils sont partis, ils ont dû partir de leur terre, oui.
Wow. Une question sur la forme. J'étais curieuse. L'absence de majuscules, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi?
Comme ça, c'est comme si les poèmes s'entrelaçaient les uns aux autres sans rupture. Dans le dialogue, c'est des échos, ça résonne, ça s'enchevêtre aussi. Il y a aussi une discrétion. La discrétion c'est la parole qui prend la place, en fait, et non pas le jeu ou l'individu. Et puis, si je commence un poème avec une majuscule, il me semble, c'est beaucoup plus. C'est grandiloquent un peu ça. Je voulais plus d'humilité.
Wow. Wow. Et aussi, le choix des guillemets. J'ai l'impression de tricher en demandant ça. Tu sais, d'habitude, je prends un objet littéraire pour ce qu'il est, mais maintenant que j'ai la chance de te parler, je suis curieuse des choix. Puis le choix des guillemets, on a l'impression que tu t'entretiens avec...
Oui.
quel est ce rapport?
Il y a deux voix dans le livre. Donc, il y a une narratrice qui s'adresse à un ange. Elle lui dit vous. Et l'ange lui dit tu. Les paroles de l'ange sont entre guillemets pour les distinguer de celles de la narratrice. Voilà.
Peut-être une dernière question. Quels sont tes prochains projets?
Ben là, je suis à la maison d'écriture de Julien Gracq, sa résidence qu'il a léguée pour que les écrivains y viennent écrire. Et je travaille sur un roman pictural et maritime, inspiré de mon grand-père qui peignait, qui avait une pratique de la peinture chinoise, ça rejoint les terres de Bretagne aussi et du Québec, mais plus dans une perspective océanique que terrestre.
Wow, j'ai hâte.
Merci.
Merci tellement, Laure, d'avoir pris quelques minutes pour cet entretien.
Ben merci à toi d'avoir pris le temps de me lire et de me poser toutes ces questions.
Toujours. Je suis une grande admiratrice. Bien, je te laisse. te laisse retourner à ton livre, puis au plaisir.
Au plaisir, merci beaucoup, bonne journée.
Aussi, bye.
Bye.
CKUT is looking for a full-time sales and administrative coordinator. The sales and administrative coordinator is responsible for the sale of on-air advertisements and co-presentation partnerships, as well as the negotiating of the radio station's administrative contractual agreements. The ideal candidate will have a passion for community radio, the ability to work with volunteers, clients, and community members, is well-organized, and has strong negotiating skills. We are looking for someone with knowledge of Montreal's arts, culture, and activity scenes who sees media as a tool for building community and can work in a non-hierarchical organization. Financial literacy, bilingualism, and experience with Google Suite products are also a requirement. For full details about the position, wage, and benefits, please visit ckut.ca. The cutoff for applications is Monday, February 6th at 5 p.m. CKUT strives to be a progressive working environment and recognizes experience outside of the formal workplace as important qualifications. We value the unique contributions that individuals from traditionally underrepresented and oppressed communities bring to our organization and encourage these individuals to apply.
Vous êtes de retour sur CKUT à l'émission Café au 90.3 FM. Il est 6h36. Et on va se lancer dans un petit bloc musical avec Alex. Est-ce que tu voudrais nous le présenter?
Yes! Et donc, deux chansons dans ce petit bloc musical. Donc, deux artistes de Montréal. La première chanson, ça s'appelle « À travers », qui est réalisée, chantée, interprétée par l'artiste Claude Lanthrope. Donc, un artiste qu'on suit, Esther Opine Dubonnet. C'est une artiste qu'on suit à l'émission depuis plusieurs années, là, super prolifique. Et donc, elle va sortir... je ne saurais même pas dire combienième album, parce que ça en fait plusieurs, mais en tout cas, un xième album en mars, le 10 mars prochain, que son lancement va avoir lieu. Donc, le nom de l'album, Ontologie des ombres, ouais, c'est ça, qui va avoir lieu au Quai des Brumes, mais on va sûrement avoir la chance d'en reparler d'ici là. Donc, on va entendre cette pièce à travers, donc, dont le vidéoclip est sorti cette semaine. Et sinon, on va en chanson avec le groupe, je l'ai mal noté, mais donc avec une chanteuse qui va jouer ce dimanche pour les événements des plugs du Quai des Brumes. Et on dirait qu'on fait de la pub pour le Quai des Brumes, mais non, ce n'est pas ça. Donc c'est comme les événements 5 à 7 là, où il y a des artistes qui viennent jouer de leur chanson sans électroniques, sans flafla électronique. Et donc, ça sera cette semaine Andrea Prochaska, donc qui va présenter au grand public son projet solo. On a pu l'entendre dans plusieurs formations musicales, dont dans Ce qui nous traverse, Bolduc tout croche. Et puis ce projet-là qu'elle va présenter ce dimanche, il se décline en chansons francophones douces, mais assez intenses. Moi, j'ai eu la chance de l'entendre à sa première représentation là, devant des amis. Puis... Il y a comme un petit feeling Nirvana, genre. En tout cas, je sais pas si elle serait d'accord avec moi quand je dis ça, mais voilà. Donc, comme il y a pas encore rien qui est sorti, elle m'a conseillé de jouer une de ses chansons de justement Bolduc tout croche, qui arrive vraiment à rejoindre sa voix puis un peu la valeur de ce qu'elle est capable de produire comme personne seule sur scène. Alors voilà, on vous laisse en musique. Donc en premier avec À travers de Claude Lanthrope et ensuite avec Bolduc tout croche. Bonne écoute tout le monde.
Tu brûles tes soirs à côté de tes rails de chemin de fer. Je déraille, je veux m'accrocher à ton corps.
Il ne faut pas avoir peur.
Toujours sur les ondes de CKUT à l'émission Café, c'est Alex qui vous parle avec Lynn en studio. On vient d'entendre deux pièces, donc Claude Lanthrope avec À travers, puis celle qui vient tout juste de jouer, la pièce L'option et l'obligatoire du groupe Bolduc Tout Croche. Et ouais, Lynn, donc théâtre.
Alex. Oui, je suis allée deux fois au théâtre cette semaine. Je suis allée au théâtre Prospero avec Alex, dans le fond. Mm-hmm. On est allés ensemble. On a vu Sur l'apparition des eaux dans le corps. C'est un texte de Gabriel Plante et une mise en scène par Félix-Antoine Boutin avec Amélie Dallaire et Gabriel-Antoine Roy. Alex, veux-tu me dire qu'est-ce que t'en as pensé rapidement?
Et moi, j'ai adoré. D'ailleurs, shout-out à Gabriel Plante et Amélie Dallaire, que je connais, deux personnes que je connais depuis vraiment longtemps puis que j'avais pas vues depuis des lunes. Et ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment une pièce surprenante. Juste le titre de la pièce en dit beaucoup sur cette pièce absolument surréaliste, en fait, j'ai envie de dire.
Ouais, puis la proposition en tant que telle est surprenante. Les personnages sont surprenants. Tout est surprenant, en fait. Comme peu importe qu'est-ce que tu t'attendais à voir, c'est probablement pas ça que... Tu sais, tout le monde a été surpris, à mon avis. Puis j'ai parlé à Gabriel et à Félix-Antoine, puis c'était vraiment ça je sais pas si c'était leur but, mais en tout cas, ils m'ont dit qu'ils étaient contents que la proposition soit surprenante, puis que c'était pas fait pour être comme... classique, puis genre prévisible. Puis...
Mais non, clairement.
Ouais. Puis je peux vous dire un peu de quoi ça parle. Ça joue encore jusqu'au 11 février. En fait, ça parle de quelqu'un qui ne peut pas mourir et ne peut pas ressentir la douleur. Donc, elle se lance en bas de pont, d'édifice, de ravin, en bas de tout et n'importe quoi, juste dans le but de ressentir quelque chose, mais rien ne la blesse. Donc, c'est très complexe. Le texte est vraiment bien écrit, puis ça repart dans l'époque de l'Antiquité, de l'Égypte ancienne, à travers les époques, les airs et tout, pour raconter l'histoire. Puis ça joue avec les codes du public, avec les codes du show d'humour aussi. Je sais pas si t'en rappelles, Alex, mais il y a un moment donné où un des deux comédiens rit de façon comme super forcé, puis mm-hmm. comme qu'il n'y a pas rapport. Puis ça, c'était vraiment pour comme briser un peu les codes de la parole en public, puis de la réaction du public.
Intéressant.
Fait que c'est sûr que ça a été vraiment réfléchi comme proposition, comme pièce. Donc, super intéressant. Puis en fait, le texte, il avait commencé à être écrit il y a 7 ans par
Gabriel.
Gabriel, c'est ça.
Gabriel
Donc,
Plante.
Ça vient de loin, cette pièce-là. Puis Création dans la chambre, c'est eux qui ont créé cette pièce. Puis ils pensent vraiment à la création comme quelque chose, une création en groupe. Tout le monde apporte son grain de sel. Puis finalement, on sait vraiment même plus à qui attribuer telle ou telle idée parce que les idées se créent en groupe et se bâtissent en groupe. Fait que c'est super intéressant comme manière de travailler. On imagine souvent les artistes en train de travailler dans leur cave, dans leur crotte, couper du monde et tout. Mais eux, c'est vraiment comme un processus de groupe. Puis c'est ça. Allez-y avec l'esprit ouvert parce que vous allez être surpris.
Mais il y a aussi, en fait, Gabriel Plante, il a sorti, en fait, un livre sur cette pièce-là. Okay. Ben, dans le fond, c'est son texte qui est paru, je pense, il y a quelques semaines à peine. Puis vraiment, moi, j'ai adoré ça personnellement. J'ai trouvé ça hyper surprenant, certes, mais ouais, il y a comme... Il y a de ces pièces où il faut juste se laisser aller sans se poser des questions. Puis moi, je me suis sentie accompagnée dans cet univers absolument étrange et ouais Non, mais vraiment, c'est vraiment à voir. C'est vraiment une proposition intéressante. C'est une heure et demie qui passe super vite. La performance des deux comédiens sur scène, elle est absolument...
bouleversante.
Ouais, ils sont vraiment bons. La lumière... on en a parlé après, Lynn. Les décors sont...
C'est,
pour vrai, à voir.
Ouais. Puis c'est ça, en plus, Gabriel, Félix-Antoine, il me disait vraiment que leur but, c'était de dire au public de ne pas s'accrocher aux choses qu'ils ont devant eux et de vraiment travailler sur le lâcher-prise. Puis moi, personnellement, c'est le truc que j'ai pas réussi à faire parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille en général, mais surtout quand je vais voir des pièces de théâtre. Puis là, j'essayais trop de comprendre, puis de tout analyser, puis de tout faire des liens. Mais dans le fond, là, il faut vraiment comme lâcher prise, se laisser accompagner comme Alex le fait, puis profiter juste de qu'est-ce qui est devant nous au lieu d'essayer de tout comme rabibocher comme, comme élément.
Ouais. Et puis je pense en fait que je vais acheter ce livre parce que j'ai envie de replonger dans son texte pour... ouais, c'est le genre de texte que tu as envie de lire puis de replonger dedans, puis il y a toujours des nouvelles couches qui font réfléchir en fait.
Vraiment. Donc, c'est super excitant. Puis c'était-tu hier? Oui, c'était hier que je suis allée voir Les Bonnes ou... Pourquoi tu ris? Là, Alex, ça se moque de moi. C'est ça, j'allais voir le projet Les Bonnes, qui a été écrit par Jean Genet et mis en scène par Roxane Loumed. Et c'était au Théâtre du Centaure, où je vais pas souvent parce que c'est un théâtre qui propose des propositions en anglais et nous, on essaye de se concentrer sur le français. Mais là, c'était par rapport encore au Festival de Wildside dont j'ai parlé la semaine passée. Et encore là, c'était surprenant, je m'attendais pas du tout à ça. Dans le fond, c'est un texte qui a été écrit il y a plusieurs dizaines d'années. Jean Genet, c'est un auteur qui a été prolifique dans les années 40-50. Donc, c'est un vieux texte et c'est un vieux contexte aussi. C'est deux bonnes qui essayent de planifier le meurtre de leur maîtresse, je pense, de la personne qui les emploie, en fait. Puis, c'est ça. C'était pas ma préférée, très honnêtement, mais je pense que ça avait rapport aussi au fait que c'était une pièce qui prenait place il y a plusieurs dizaines d'années, puis personnellement, en tout cas, j'avais pas l'impression que l'adaptation à la modernité avait été comme... En tout cas, il y avait tellement d'éléments qui entraient en jeu que c'était difficile de faire le tri entre ce qui était moderne, ce qui était tiré de l'époque de Jean Genet, etc. Mais quand même, le Centaure, j'ai regardé leur proposition, puis ça a l'air vraiment intéressant. Fait que si vous voulez vous renseigner, c'est ça. Puis le Festival de Wildside, en fait, c'est fait pour ça, là. C'est fait pour comme explorer, faire de l'expérimentation. Donc, ça vaut la peine, puis ça vaut la peine de découvrir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi. Donc, voilà pour ça. Puis, ça joue jusqu'au 29 janvier. Donc, c'est quand même bientôt, c'est après-demain. Donc, si vous voulez aller découvrir cette pièce-là, je vous y encourage. Puis, c'est pas mal tout pour moi. Alex avait une dernière pièce musicale, je crois, à nous proposer.
Hey, merci. Merci, Lynn. Merci à tout le monde pour cette émission en ce vendredi 27 janvier. Et oui, pour terminer l'émission, on va aller en musique avec le tout premier single du prochain album du groupe Milan Kou, donc ce groupe mythique qui va performer à Québec, dans la ville de Québec, donc pour ceux et celles qui vont être là, le 17 février prochain au Pantoum pendant le festival Fuck Off. Alors, on va écouter ça. Hey! À l'aube de leur silence. Bonne écoute tout le monde, bon week-end, bonne chance en ce janvier gris, puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine!
by Frederick Douglass in some of his writing. He spoke of the role that spirituals, for example, had not only as religious songs of slaves, but also as they served the practical needs of slave resistance. He wrote, "We were at times remarkably buoyant, singing hymns and making joyous exclamations, almost as triumphant in their tone as if we had reached a land of freedom."
Hola amigos, bienvenidos a nuestra emisión quincenal, escuchando América Latina, aquí en CKUT 90.3 FM.
Les informaremos a ustedes sobre el arte, la cultura, poesía y turismo.
También tenemos deportes, información actual y mucho más.
América Latina, ¿eres tú?
América Latina es ella.
América Latina es él.
América Latina somos nosotros.
América. Argentina.
Bolivia.
Brasil.
Chile.
Costa Rica.
Colombia.
Cuba.
Ecuador.
El Salvador.
Guatemala.
Honduras,
México,
Nicaragua,
Panamá,
Paraguay,
Perú,
República Dominicana,
Uruguay,
Venezuela.
América.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Con comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel del oro.